Bien, nous allons commencer. Pardonnez d'abord mon retard, mais la télévision m'accapare un peu de temps en temps, donc l'actualité aussi. Donc j'ai du mal à quitter mon bureau. Alors, bon, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être présentons au tort François Despneaux. Et si on doit le présenter, je commencerai par dire que François est un écrivain, c'est le régional de l'étape. C'est un écrivain de chez nous, de par ses racines, de par sa famille. Christian, son père, avait une maison à La Cano, que tu as toujours d'ailleurs.
Voilà.
Ben, on se tutoie, hein, parce que moi je suis journaliste, et comme j'ai bien connu, un peu fréquenté son père, qui faisait partie d'une grande troïka à l'Express il y a quelques années, puisqu'il travaillait avec des noms qui disent forcément quelque chose aux gens de cette époque qui étaient lecteurs de l'Express en tout cas. On parlait de Christian Hoche, de Yann de Lécotet,
oui.
Notamment. Hein, c'était un peu le trio de tête, et moi je les ai un peu fréquentés à une époque de par ma carrière de journaliste également. Donc j'ai été très content de retrouver François, qui est donc un auteur régional, mais qui avait quitté un peu la région pour monter à Paris, où il donnait dans la pub. Il était pubeur, comme on dit. Et puis, il nous racontera lui-même tout à l'heure ce qu'il est devenu. Je crois que c'est son huitième roman. Il en a écrit quelques-uns qui ont aussi laissé des traces dans la littérature régionale, notamment avec Gégé, qui est sorti en 1994, qui se déroulait en grande partie autour de notre région également, et à Bordeaux. Et puis après, il y a eu surtout, alors j'en citerai, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu Deux jours à tuer, dont certains d'entre vous ont peut-être vu l'adaptation cinématographique à la télévision il y a une quinzaine de jours. Deux jours à tuer, un très joli livre, et avec un final absolument inattendu, donc je ne vais pas vous le raconter si vous avez l'occasion de revoir le film ou de relire le livre. Je trouvais que c'était un très joli livre. Il y a aussi tous les papas du dimanche. Les papas du dimanche, c'est un livre tendre et sévère à la fois sur les drames du divorce, les difficultés qu'endurent parfois les pères séparés de leurs enfants, et l'un et l'autre, nous savons de quoi nous parlons. Donc c'était un livre touchant, mais il faut dire que pour moi, François est un peu un sentimental romantique. Et puis il y a eu Gabi. Et puis ce dernier livre, Même pas mort, qui effectivement raconte avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de tendresse vis-à-vis de son père, neuf jours qui séparent le moment où on lui annonce que son père est vraiment mal. Et au moment où on va l'enterrer, malheureusement. Et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, surtout, en tout cas moi je parle à mon âge, connu ces moments tragiques souvent, mais où justement la tension et la nervosité du tragique fait que certaines situations deviennent totalement irrésistibles, et que moi j'ai souvent vu, et vous aussi, dans des enterrements ou à l'église ou au cimetière, des fous rires nerveux, bien souvent, mais parce que la situation est comme ça. Alors voilà, c'est ce que raconte François dans ce livre. Alors pourquoi Bon, je disais à l'instant, on a tous vécu un peu ces situations, dans des moments pénibles, souvent. Pourquoi ce besoin d'écrire ce livre? C'était une façon de vous libérer, de te libérer de quelque chose?
C'était vraiment une libération, ça s'est imposé vraiment naturellement, parce que j'ai vraiment eu l'envie d'opposer quelque chose à la fatalité de la mort. C'est-à-dire que je me suis dit, ça se passera pas comme ça. C'est-à-dire que mon père est parti effectivement assez vite, entre le jeudi où il a été opéré et il est passé deux jours, puisqu'il est mort le samedi. Et ensuite, tout s'est enchaîné à une vitesse incroyable. C'est-à-dire qu'il faut, gérer énormément de choses. Ceux qui ont connu des deuils proches savent ça. Et on est amené, comme disait Jean-Pierre, à vivre des situations absolument incroyables. Et mon père était un homme qui avait énormément d'humour. Et j'ai voulu rendre hommage à cette dérision-là, à cet humour-là, et c'était sans doute aussi une façon de mieux vivre mon deuil, si je puis dire, si tant est qu'on puisse le vivre bien, mais en tout cas, d'être tellement dans l'action, d'être tellement dans les choses à faire, dans des choses parfois très prosaïques, très terre-à-terre, pour moi, ça a été... Il m'a semblé évident de l'écrire, parce que j'ai été frappé de voir à quel point l'occasion du deuil et la mort peuvent être source de vie, et de retrouvailles, et de très belles choses. Voilà, c'était pour moi la raison principale pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre.
Alors, on va peut-être prendre un peu chronologiquement, sans rester forcément toujours dans le chronologique. Néanmoins, l'annonce déjà de l'hospitalisation et de l'intervention que subit ton père, tu es en pleine réunion marketing, voilà. Dans de grandes, grandes réunions de sociétés de publicité, où on refait le monde, où on trouve des idées absolument bouleversantes et qui vont faire qu'on va vendre des milliards et des milliards, voilà, de ce produit, et ça se tombe dessus au milieu de cette réunion.
Alors voilà, c'est vrai que ça commence comme ça, parce que tout à coup, tout paraît absolument vain. On est dans une réunion, on est en train de décider d'un plan marketing, parce que je travaillais dans une grosse agence de publicité américaine. Alors c'est vraiment la World Company comme on la voit dans les films. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est avenue Georges V, il y a des grandes salles de réunion, des termes verbeutres, des anglicismes à tout bout de champ. Alors on parle de market, de cible, c'est hallucinant. Et là, il s'agissait de Ford, en l'occurrence, et on était en train de réfléchir. Et moi, j'étais complètement ailleurs, parce que j'attendais un coup de fil de ma mère, j'avais mon portable posé devant moi, et je dis vraiment dans le livre... C'est une bombe à retardement. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Je sais qu'elle va m'appeler. Je sais que les choses vont pas bien. Et on est en train de, je vois des gens qui m'interrogent du regard en disant, et alors, toi, qu'est-ce que tu penses du cœur de cible? Tu crois qu'on peut en faire une action média, hors média? J'avais envie de dire, j'en ai rien à faire, très honnêtement. Là, honnêtement, mon père est à l'article de la mort et on est en train de me parler de l'avenir d'une voiture. Ça me paraissait surréaliste. Et c'est le début du surréalisme. Et le ton est donné. C'est-à-dire qu'effectivement, premier télescopage entre la vie qui continue malgré tout, parce qu'on est bien obligé de la continuer, et on est encore un pied dans la vie, et on n'est pas encore un pied, si je puis dire, dans le deuil et
dans le drame.
Et dans le drame, voilà. Ouais.
Alors, deuxième étape qui me paraît importante, c'est comment on gère, parce que là, on retrouve justement la tendresse, comment on gère les petits-enfants. Comment on gère les enfants, les petits-enfants. Il y a un passage assez joli, d'ailleurs, où tu parles de ton fils, à qui tu téléphones, et notamment, et puis ta fille, oui, toute petite, Ninon, qui, oui, voulait faire un dessin pour son grand-père.
Voilà.
Parce qu'effectivement, et tu le dis d'ailleurs, quand on a 10 ans, les grands-pères, ça ne meurt pas. Ça tout saute un peu, ça s'essouffle, ça a mal au dos quand il pleut, ça prend des Smarties pour dormir, bien sûr, mais ça ne meurt pas.
Oui, c'est vrai.
Et ce sont les premiers qu'il faut gérer.
Ce sont les premiers qu'il faut gérer avec les mots appropriés pour chacun, de la petite qui a 11 ans, ensuite mon adolescent de 15 ans avec sa réserve d'adolescent et cette façon de se protéger qu'ont les ados et de rester comme ça absolument mutique. Et puis ma grande fille de presque 18 ans, enfin 17 ans à l'époque. Donc on trouve les mots, on essaie de choisir ce qui choqueront le moins, ceux qui bouleversent, enfin, être à la fois, il faut être à la fois direct et pas trop brutal, c'est très difficile à faire. Et effectivement, pour ma petite fille, elle m'a dit très spontanément, est-ce que je peux faire un dessin pour mon papa? Donc, je lui ai dit oui, bien sûr, et j'allais dire de toute façon, et ce dessin, effectivement, il l'a reçu, d'une façon ou d'une autre.
Il est parti avec. Alors, bon, les enfants à gérer, et puis alors, et c'est là, tout d'un coup, qu'effectivement, on est... Au maximum de la peine, de la difficulté, du drame que l'on sent arriver, et il va falloir faire face, malgré tout, à un maximum, effectivement, tu le disais à l'instant, de situations pratiques, de problèmes pratiques. Et c'est ce que tu rends très bien avec beaucoup d'humour, dans un très joli style, en plus, assez direct, mais un très joli style. Et après, ben voilà, et c'est la machine qui se met en route. Hein.
Voilà.
C'est la machine qui... Alors, c'est le voyage, il faut partir de Paris, il faut aller rejoindre Arès, parce qu'il est à l'hôpital d'Arès. C'est l'arrivée, tout ce qu'on découvre au fur et à mesure, gérer les sœurs, les frères, maman, etc. Et puis tout d'un coup, cette rencontre avec le drame, qui arrive 48 heures après que tu sois arrivé à Arès, et puis la rencontre avec cet homme absolument incroyable, Monsieur Martineau, ouais, avec qui tu vas quasiment passer 3 jours.
Quand même. Oui, bah oui.
Voilà.
Celui que j'ai appelé Monsieur Martineau, effectivement, au fur et à mesure des nouvelles qui malheureusement allaient de mal en pis, on a décidé de remplir une voiture avec mes sœurs, on est descendu à fond à Bordeaux, et ma sœur, je le dis dans le livre, m'a dit un truc absolument terrible. Elle m'a dit, écoute, voilà, on part, le mieux c'est de partir ce soir, et prévoit un truc sombre. Ça, c'est le prévoit un truc sombre, ça a été terrifiant. Et on est arrivé effectivement dans la nuit, et ensuite tout s'enclenche très très vite. Mon père est mort le samedi à 14h, le lendemain, comme dit Jean-Pierre, le soir même, on rencontre Monsieur Martineau, mais qui nous dit très gentiment, donc pour tout ce qui est funérailles, etc., parce que ça va très vite, et le lendemain, on va le voir. Et alors là commence effectivement le côté surréalisme. Et c'est vrai que si j'ai aussi, pour répondre à ta question, Jean-Pierre, si j'ai voulu aussi écrire ce livre, c'est parce que souvent on se disait avec mes sœurs, si papa nous voit, franchement, il doit rigoler quand même. Parce que tout de suite, à peine, mon père n'était quasiment, enfin, il était mort depuis quelques heures, que déjà, on nous parlait, bah, ma foi, de choses extrêmement concrètes, commerciales, prosaïques. C'est ça aussi, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la mort, et ça fait partie de la vie.
Alors ça va du choix du cercueil, capitonné ou pas capitonné.
Voilà.
Hein, au choix du caveau, parce qu'il n'y a pas de caveau. Voilà. Alors c'est caveau l'un sur l'autre, côte à côte.
Mais l'humour est une défense incroyable, parce qu'effectivement, tout à coup, il nous dit, ce monsieur, qui était d'ailleurs formidable et très bien dans son rôle, sauf que c'est terrible, parce que j'imagine il voit arriver toute une famille éplorée devant lui, ça doit être très difficile de trouver les mots, mais c'est son métier. Et il commence à nous dire de but en blanc, bon, alors voilà, vous avez un emplacement à la Canoë Océan, mais alors bon, et qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on prend 4 ou 6 places, les prix sont dégressifs. Et là, tout à coup, je me suis dit, on est en train de parler immobilier, où j'avais l'impression d'acheter un monospace. Vous prenez 4, 6 places, c'est moins cher, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une promo en ce moment. C'est totalement surréaliste. Et finalement, la vie continue aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un magasin, moi qui sortais de la pub et de ma réunion 2 jours avant sur Ford, je me retrouve finalement dans un commerce de funéraire où il est aussi question de promotion, de effectivement, comme tu dis, de cercueil.
Alors il y a la stèle là. Et la stèle, vous y avez pensé, dit Monsieur Martineau. Avez-vous pensé à la stèle? C'est-à-dire que non, je réponds, on ne fait pas ça tous les jours.
On ne fait pas ça tous les jours. Ah oui.
Alors, Monsieur Martineau, je peux savoir quel métier faisait votre mari? Il était journaliste, dit ta mère. Un homme de plume, donc. Ah, ça tombe très bien, nous avons aussi des modèles thématiques en décoration vert. Regardez, écriture, 25 sur 35 cm, ou encore vieux grimoire, moins de 30%, sans doute un invendu. Et tout le ton. Et tout le ton du livre est là, finalement.
Oui,
et je crois que l'humour, dans ces cas-là, c'est vraiment la meilleure défense.
Ah, c'est vraiment la meilleure défense. Moi, c'est un hommage que je voulais rendre à mon père, qui était un homme drôle, et qui, je pense, nous regardait. Et effectivement, avec mes sœurs, on était là totalement désemparés. On nous parlait... on voyait ces cercueils, il y a un showroom avec donc ces cercueils, on dirait... Alors je dis, à un moment, on dirait... Il y a quelque chose de nautique là-dedans, tout est en bois ciré. Alors on regarde, il y a des modes. Les noms sont déjà hallucinants, c'est-à-dire que c'est toujours, ils sont tous plus ronflants les uns que les autres. Alors il y a des gammes de prix plus ou moins luxueux. On a envie de dire, bon, c'est un voyage, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir tout ça quand on est au fond d'un caveau? Bon. Et puis alors là où ça devient surréaliste, c'est que papa, que tu connaissais, qui était un grand reporter, qui avait sillonné la planète, qui avait une gueule de baroudeur, qui revenait de semaines et de semaines de reportages dans les confins du monde et de l'Afrique. On nous a proposé un intérieur de
l'auteur cercueil. L'auteur de Giscard l'Africain, je vous rappelle au passage.
On nous a proposé des intérieurs de cercueil, mais c'était, on avait l'impression, dans le monde des poupées Barbie, c'est vraiment au pays de Michou, quoi. C'est-à-dire que tout était rose et bleu, avec des petits pompons, des petites dentelles, des petits oreillers. Et là, la scène est absolument authentique. Ma sœur s'est retournée, cassée en deux. J'ai cru qu'elle pleurait, qu'elle était secouée. Et en fait, c'était un rire nerveux. Parce qu'elle a dit, si vous connaissiez mon père, l'imaginez dans ce truc de rose et bleu avec les petits coussins à pompons, ça, c'est pas possible, quoi. Et donc voilà, c'est salutaire.
Alors, il y a aussi un moment dont tu parles moins finalement dans le livre, mais qu'on sent quand même en arrière-plan, d'ailleurs, parce qu'elle prend la parole au moment de l'enterrement, de l'enterrement lui-même. C'est ta compagne.
Oui.
Qui finalement joue, sans que tu le dises vraiment, mais on le sent, on le sent présente, parce que tu lui parles en plus dans ce livre très souvent.
Alors c'est vrai que c'est Almeric qui est ici, qui m'a dit c'est une histoire de mort et c'est une histoire d'amour.
Voilà.
Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement les événements ont été concomitants. Le fait est que après les papas du dimanche, pour ceux qui ont lu toute mon œuvre complète, il y a une sorte de cassure dans ma vie. Enfin à ce moment-là, et puis j'ai rencontré quelqu'un et je vais faire ma vie avec elle, je vais me marier avec elle. Donc, mon père et cette jeune femme se sont croisés. Et ça m'a quand même énormément frappé. Ils se sont juste croisés. Et pour la petite histoire, et là où la vie est là aussi très ironique, c'est qu'elle est journaliste à l'AFP où mon père a passé 6 ans. Donc, c'était le grand aîné. Et elle l'appelait la petite consoeur. Et donc, c'est elle qui a effectivement lu un hommage au bord de la tombe. Alors,
que je vais lire d'ailleurs très rapidement, je vous jure que ça va être rapide. Et tu dis d'ailleurs, parce que comme tu lui parles dans ce livre à ta compagne, qui est charmante d'ailleurs, parce que moi je l'ai rencontrée, donc je peux témoigner qu'elle est absolument charmante. Tu lui dis, nul n'est plus légitime que toi, petite consoeur, comme disait ton père, pour lire l'hommage adressé au grand aîné. et dans ta robe en lin noir, les yeux masqués par tes rébanes, papa avait les mêmes, tu te lances la voix forte, Christian Despnous nous a quittés. Il faisait partie de l'équipe des grands reporters de l'Express que j'avais rejoint en 1985 et qui m'avait appris mon métier. Les Christian Hoche, Arlette Maréchal, Jacques Renard, Jean Leclerc du Sablon, Alain Loyaux et autres mi-baroudeurs, mi-intello, ces aristos du journalisme qui n'avaient pas peur de couvrir guerre et révolution, ni de lire des piles de livres avant d'aller sur le terrain. Christian connaissait l'Afrique comme sa poche, on l'appelait « le baron », et pas seulement à cause de sa particule. Il était élégant, élégant dans sa façon de travailler, dans son écriture, dans son comportement, dans ses amitiés. Il est parti brusquement, c'est bien la première fois qu'il est brutal. Adieu, baron. Voilà, en même temps, donc, c'est ce récit humoristique sur une situation dramatique, mais qui, je le disais tout à l'heure, tourne souvent à la nervosité et au rire nerveux. En même temps, c'est un grand hommage que tu rends à ton père.
Voilà, c'est un hommage à ce qu'il était, à sa force de vie. Effectivement, il est parti, comme le dit Bernard Lecomte, très très brutalement. Et moi, j'avais un autre projet littéraire, en fait. Et le fait est qu'après tout ce qui est arrivé, je devais déjeuner avec mon éditrice. Et je lui dis, écoute, je crois qu'on va repousser à plus tard. Il faut que j'écrive ça. Je ne peux rien écrire d'autre que cet hommage à mon père. Parce qu'en fait, je veux montrer comment ces 9 jours ont été un concentré de vie incroyable. Finalement, d'abord, une famille se retrouve parce qu'effectivement, on comble le manque. Donc, on compense le manque. Donc, chacun se resserre. Et puis, chacun se révèle vraiment tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mascarade, il n'y a rien. Ce sont des humains à nu, ce que je dis à la fin, de beaux humains. Je crois que des gens s'aiment comme ça et se retrouvent et rendent hommage à un homme en évoquant son souvenir, et c'est là aussi qu'on rit parfois, parce qu'effectivement, les dîners du soir ou les déjeuners, c'était aussi une occasion de rappeler des souvenirs de mon père qui étaient hallucinants. Donc voilà, je crois que c'était une façon de montrer comment la mort, effectivement, je le redis, source de vie est aussi l'occasion d'un concentré de vie incroyable où on passe de la préparation de la cérémonie au devis du traiteur à un oncle qui appelle en disant comment je viens après Poitiers, je prends quelle route, et puis à toutes ces choses qui sont à la fois prosaïques et qui font partie de la vie.
Alors comment t'es venu le goût de l'écriture en dehors, j'imagine, de l'atavisme avec ton père mais tu n'as jamais été tenté par le journalisme?
J'ai fait un troisième cycle de journalisme, et en fait j'ai commencé à écrire un petit peu à droite à gauche, à piger un peu à droite à gauche, et en fait je me suis aperçu que, primo, j'aurais du mal à me faire un prénom, comme on dit. Et en plus, je me souviens avoir fait un petit papier dans le Figaroscope, pour comme ça. Et mon père l'a lu, et alors il a été tellement critique, je me suis dit, alors je m'en sortirai jamais. Alors là, et il avait, je me souviens très bien, ça m'avait beaucoup frappé. Je faisais un peu ça par, comme tu dis, par atavisme, je ne m'étais pas trop posé de questions. Moi, j'avais surtout envie d'écrire des livres, et ensuite, voilà, je... Et je me souviens qu'il m'a dit, il y a quand même des répétitions dans ton article. Et alors, j'ai pris mon, un peu piqué au vif, j'ai regardé mon article, il n'y avait pas une seule répétition. Il n'y avait sûrement pas que des bonnes choses, mais il n'y avait pas de répétition. Donc, je me suis dit, finalement, il va peut-être trouver toujours un moyen d'être critique par rapport à ce métier. Je me suis dit, ça va être très compliqué. Et c'est là que, comme je ne voulais pas me servir de lui pour rentrer dans un journal, etc., moi, j'avais commencé à écrire des romans à ce moment-là, ou faire des manuscrits. Et puis, j'ai eu la possibilité de faire de la pub, et je me suis dit, ça sera plus simple de faire d'un côté de la pub, de vendre des yaourts et des voitures, et puis de l'autre, de laisser libre cours à mon imagination pour écrire des livres. Chose que lui, curieusement, lui qui a été témoin de son temps et qui était un journaliste vraiment très très actif, n'a jamais réussi à faire. C'est drôle, comme lui, je crois, avait été tellement dans la réalité qu'il n'a pas eu besoin de s'inventer une fiction. Et moi, qui avais une vie, j'allais dire, plus classique, plus sédentaire, plus formaté, j'ai eu vraiment besoin de m'inventer une vie parallèle à travers la fiction. Donc on se croisait là-dessus. Et je crois qu'il a été vraiment assez épaté le jour où j'ai publié mon premier roman chez Anne Carrière.
C'était GG en 1994.
14, voilà.
Et GG, ça se passe à Bordeaux.
Et ça se passe à Bordeaux. Et à Lacanau aussi, d'ailleurs. Décidément.
Alors je disais tout à l'heure, Deux jours à tuer, qui est devenu un film, qui a été un succès littéraire, d'ailleurs, de librairie, et d'édition, et puis qui est devenu un film, ouais. avec Jean Becker, qui était par ailleurs, lui, le fils de Jacques. et donc, ce, ce, Pour toi, ça a été tout d'un coup passer de l'édition de la littérature. C'était 5 ans après le premier livre, je crois.
Oui, oui.
C'est 5 ans après GG. Ouais. Tout d'un coup, tu découvres le monde du cinéma.
Exactement, c'était 5 ans. J'ai découvert le monde du cinéma presque un peu par hasard, puisque le livre a été envoyé à un de mes amis, qui s'appelle Jean-Loup Chifflet, que tu connais aussi, et qui a énormément aimé le livre, et qui l'a passé à sa sœur, qui se trouvait une collaboratrice de Jean Becker. Donc ça s'est fait comme ça. Et Jean l'a lu, et il a vraiment dévoré ce livre, et il a tout de suite voulu le faire. Et puis ensuite, j'ai mis un pied dans le cinéma complètement par hasard. Il a d'abord fait travailler un scénariste, un autre scénariste, et puis il voulait pas me rencontrer, il voulait être libre de ses mouvements. Et puis, ça lui convenait pas complètement, donc finalement on s'est rencontrés, et puis on a décidé de faire la mouture du scénario ensemble. Et finalement, j'ai co-scénarisé ce film avec lui, ce qui a été une expérience fantastique, et qui était magique, parce qu'elle me tombait dessus, mais j'y ai pris goût. Tellement que je continue.
Voilà, alors c'est ça, oui, finalement, tout d'un coup, tu as été contaminé, et maintenant, c'est le cinéma, c'est plus la pub.
Alors la pub, je suis parti de la fameuse agence aux voitures et aux yaourts le 30 septembre dernier, et justement pour essayer de voler de mes propres ailes et de ne vivre que des livres et des scénarii.
Courageux, hein.
Voilà, donc j'espère que
vous voyez ce qu'il vous reste à faire.
Peut-être que vous allez me retrouver chez McDo dans 6 mois en train de vendre des... J'en sais rien, c'est possible. Mais à un moment, je me suis dit, si je ne le fais pas...
Peut-être que tu seras dans le salon un jour, qui sait, où tu auras été pris en otage par je ne sais quel...
Vas-y. Si quelqu'un pouvait me prendre en otage dans cette salle. Et donc, petite histoire rigolote, mon père, avant d'être journaliste, avait fait un an d'école de cinéma. Donc, comme quoi, décidément, on n'en sort pas. Et puis, je me suis lancé en me disant si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'en ai marre de les voitures, tout ça, la pub, c'est bien gentil. J'ai la reconnaissance du ventre, après tout, c'est un métier, c'est déjà pas mal, et c'est un boulot. Mais je me suis dit si je tente pas maintenant, je le ferai jamais, je le regretterai toute ma vie. Donc je me lance, on verra bien. Peut-être que j'y retournerai si je dois absolument y retourner. Mais j'ai voulu créer un appel d'air, ce qui a marché puisque Jean Becker, sachant que j'étais disponible, m'a consulté pour travailler sur un nouveau projet. Donc là, je suis à plein temps, et quel bonheur, co-scénariste dans l'écriture en ce moment d'un nouveau projet d'adaptation d'un livre qui n'est pas le mien, qui est très joli.
qui n'est pas le mien, mais qui néanmoins,
plutôt pas mal. Et donc j'espère que l'adaptation sera réussie, et vraiment là pour le moment ça m'occupe à plein temps, et Les Papas de Dimanche que tu évoquais tout à l'heure, le film va être tourné aussi en long métrage pour le cinéma en mars et avril. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que je commence à...
Donc c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre...
Nouvelle carrière, espérons qu'elle portera ses fruits.
Qui s'ouvre devant toi. Mais ton inspiration est souvent quand même très personnelle.
Oui, c'est mon socle. C'est-à-dire que j'ai des histoires, que ce soit pour mes premiers livres ou les plus récents. Il y a toujours, j'arrive à imaginer ou à broder ou à extrapoler, mais à partir d'une matière, d'un matériau déjà existant. C'est vrai que le premier livre évoquait énormément ma grand-mère. Le deuxième, c'était l'histoire d'une maison qu'effectivement que mon père avait reprise. C'était une maison dont un homme devenait presque fou, qui devenait presque vraiment une forme d'amour en fait pour une maison. Il y a toujours quelque chose qui existait. J'ai écrit un livre sur le Danemark parce que ma mère est danoise. J'ai eu besoin toujours de rendre hommage à toutes les constituantes de ma vie, les grands personnages, les lieux qui m'ont marqué, évidemment le Sud-Ouest, la Cano à plusieurs reprises, parce que je suis constitué comme ça. Et ensuite, voilà, j'invente, je crée des personnages, je crée des situations.
Pour parler du cinéma, avec Becker, tu as trouvé ta filiation, en fait, parce que c'est un peu aussi sa source.
Alors lui...
Qui revenait aussi après Sauter, en fait.
Oui, ça c'est vrai que c'est Sauter, moi je suis totalement fan. Mais c'est vrai que Jean, lui, il revendique, c'est vrai, cet amour des personnages, des situations simples de la vie. D'ailleurs, on parlait de Même pas mort tout récemment. Il me disait, mais il y a peut-être, je sais pas, mais c'est très personnel, mais quand même. Je crois qu'il aime bien les films un peu impressionnistes comme ça, où surtout l'humour, l'émotion, tout ce qui constitue la vie se mélange, se télescope et se mêle. Et ça, dans ces films, il y a toujours de l'émotion, et même dans Deux jours à tuer, et par moments, des moments de grande outrance et je crois d'humour et de cocasserie. Donc,
Mais même pas mort, je pense que Chabrol aurait beaucoup aimé.
Ah oui, ça, je pense qu'il aurait pu en faire quelque chose
d'intéressant. Il n'aurait pas raté le coche. Dis-moi, avant que tu ne quittes la pub pour passer dans le cinéma, tu t'organisais comment pour écrire?
Je travaillais beaucoup et je travaillais beaucoup à l'heure du déjeuner, le soir. C'est pour ça que les maquilleuses, quand je vais sur les plateaux, sont mettent beaucoup de trucs sur les cernes, parce que effectivement, je travaillais beaucoup la nuit. D'abord parce que j'étais insomniaque et je travaillais voilà la nuit. Alors comme en plus je sortais beaucoup, ça faisait pas mal. Mais alors je travaillais sur mes budgets de pub 5 ou 6. À l'heure du déjeuner, je bouffais un sandwich et puis je faisais mes dialogues. J'envoyais ça à Jean Becker et je retrouvais Jean Becker chez lui le soir pour que, autour d'un bon dîner, on se mette les dialogues en bouche. Mais ce qui me faisait sortir encore très tard et puis je recommençais le lendemain.
Ça, c'est pour l'adaptation cinématographique. Mais avant, la gestation d'un roman, ça...
Ben, c'est vrai que les 8 romans, j'ai réussi à les faire comme ça, c'est-à-dire en bossant un peu le week-end, le soir. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans ce métier, c'est l'un des avantages de la pub, c'est qu'il y a des moments d'intensité. Intense activité, et des moments où pendant 2-3 jours tout est bloqué, on attend les réponses d'un client, etc. Et on est livré à nous-mêmes, donc on fait un peu ce qu'on veut. Moi j'avais un peu une obligation de résultat, c'est-à-dire que les gens dans mon agence se moquaient un peu de savoir comment j'avais mes idées, puisque j'étais créatif. Ils se moquaient de savoir comment je les avais. Alors j'avais le champ libre pour m'organiser. Donc de temps en temps, je trouvais des espèces de poches de temps, en fait, dans ma semaine, une après-midi, une journée pour écrire. Et alors tout à coup, entre deux budgets, effectivement, j'arrivais à trouver 3, 4, 5, 6 heures pour écrire. Et d'ailleurs, au vu et au su de tous, c'était absolument admis, il n'y avait aucun problème. Ça, c'était assez confortable quand même. Donc j'ai pu avancer, écrire 8 bouquins comme ça, à ce rythme-là, puisque je les ai toujours écrits en étant en activité, en même temps dans la pub, quoi. Mais ça faisait pas mal, oui, je dois dire. Je ne sais pas si j'aurais toujours l'énergie pour, après une journée de boulot, rester au bureau et écrire un bouquin.
Le prochain, c'est quoi ?
Alors, le prochain, j'ai quelques idées. J'aimerais écrire une pièce de théâtre. J'aimerais me lancer dans plein de choses. Je voudrais écrire une pièce de théâtre, des nouvelles. J'aimerais écrire un livre vraiment léger. Parce que là, dans mes livres, j'espère que même dans les sujets les plus graves, que ce soit la séparation ou la crise de la quarantaine pour Deux jours à tuer ou évidemment la mort de mon père, je crois qu'il y a toujours des petites touches d'humour quand même.
Je confirme.
Mais j'aimerais écrire vraiment une sorte, alors pour le coup, écrire un livre ayant un parti pris totalement léger, romanesque, drôle, sans même que ça n'ait rien d'autobiographique pour le coup. J'aimerais écrire une pièce de théâtre, j'aimerais écrire un livre tout à fait léger. J'ai un jeu de société aussi en tête que j'aimerais bien développer. Et puis le cinéma, c'est-à-dire que maintenant partir plutôt sur les scénarii et proposer des idées pour qu'elles soient tournées. J'aimerais bien faire une petite pause, c'est-à-dire que pour moi c'est la fin d'un cycle, même pas mort. Je suis revenu... c'est vrai, quand on a écrit sur la mort de son père, même avec la distance qu'il y a dans le livre, après c'est difficile de trouver un sujet à la hauteur, si je puis dire. Il faut laisser la terre un peu en friche et se reconstituer, et je pense que je repartirai avec tous ces changements dans ma vie sur d'autres bases, avec d'autres références, etc., pour peut-être écrire autre chose dans un tout autre état d'esprit. Là, c'était le dernier livre du cycle. Effectivement, ça a commencé avec Gégé à Bordeaux, ça se termine, et à Lacanau, ça se termine au bout de 8 livres à Lacanau avec la mort de mon père. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir, c'est comme une sorte de période, comme une période bleue. Là, c'est la période, je dirais pas autobiographique, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de rendre hommage à tout ce que j'ai tout à l'heure, tout ce qui a constitué ma vie. Et là, je pense que je prends un tel nouveau départ que je vais peut-être écrire des choses qui n'ont rien à voir. Donc,
voilà, c'est ça. Donc, il pourrait être totalement détaché de ta propre histoire, de ta propre vie.
Voilà.
Et est-ce que, par exemple, puisque maintenant tu as tâté et goûté beaucoup maintenant même du cinéma, est-ce que tu pourrais écrire directement pour le cinéma ? C'est-à-dire ne pas écrire un livre, mais écrire directement un scénario ?
Oui. Ça, je pense que je commence à m'y essayer. J'ai proposé des projets déjà, des espèces de synopsis ou des pré-scénarii. Déjà, ça m'est arrivé même pour la télé. Et ça, c'est une nouvelle écriture. Je la trouve très... très agréable parce qu'effectivement, souvent, on doit aller droit au fait. Ça rejoint aussi un petit peu le journalisme. Il faut être assez factuel. Et c'est quelque chose qui me tente. D'ailleurs, le livre, le travail que je suis en train de faire avec Jean Becker, c'est un travail, même si on adapte un bouquin, on le transforme tellement que vraiment, là, je suis en train de, en partant d'une base d'existence, de le réécrire, pas complètement, mais en grande partie.
En grande partie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a laissé, ton père ?
Oh là, ça, c'est une question. je pense qu'il m'a laissé, je le redis et je le répète, mais une forme d'humour et de poésie par rapport à la vie, une forme de recul, une façon d'être toujours dans une petite distanciation par rapport aux choses qui font que quand même quand on a des emmerdements, il faut les surmonter, avancer. Parce que, après tout, quand on a encore la chance d'être vivant et à peu près en bonne santé, c'est déjà beaucoup. Donc, je pense que ça, il m'a appris ça. Je lui vaux. Et puis, ce goût de l'écriture, le goût de l'observation. Mon père était quelqu'un qui avait un œil terrible, qui observait tout, et qui était toujours un tout petit peu en retrait, même si c'était un être extrêmement sociable, tu l'as connu, qui était assez marrant, qui était un bon vivant, etc., etc. Il avait une façon, un petit recul sur les choses, une sorte de poésie dans le regard qu'il portait sur les choses, qui a bercé mon enfance parce que c'était quelqu'un qui racontait très bien les histoires. Donc ce que je lui dois, je pense, c'est l'envie de raconter des histoires. C'est qu'il nous racontait des histoires à tout bout de champ. Il n'était pas toujours facile, hein, c'était pas franchement. C'était quelqu'un qui racontait très bien et je pense qu'il nous a donné le goût, en tout cas à moi principalement, mes sœurs n'écrivent pas, mais elles aiment bien aussi les récits, le goût d'écrire des histoires. Puis aussi l'écriture par défaut, c'est-à-dire je crois que j'étais tellement nul en maths et en physique et tout ça qu'à un moment j'étais un peu obligé de me diriger vers l'écriture.
Bien. Ben voilà, on a fait un peu le tour. Alors, je vais pas dévoiler tout à fait la fin du livre, parce que même si ce n'est qu'un récit, il y a quand même une toute petite surprise à la fin. Parce que ton père a écrit aussi beaucoup. Et là, aussi, il y a une petite surprise au moment de la mise, au moment de l'enterrement, entre ta mère et toi. Mais on va pas dévoiler tout à fait la fin. On a fait le tour d'un personnage que j'aime beaucoup, moi. Donc, je disais tout à l'heure qu'il était romantique et sentimental, et c'est vrai, il est tendre, en tout cas. Alors, je feuilletais ton livre, là, en vous écoutant, et il y a une dimension qui m'avait un petit peu échappé, un passage, en tout cas. Je trouve que tu n'es pas très tendre avec le personnage hospitalier. Je dis que tu étais tendre tout à l'heure, mais le personnage hospitalier, il a pas vu passer. Hein.
Non, mais c'est bon, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été très gentils. C'est vrai que c'est là aussi, c'est toujours la confrontation entre ce qu'on ressent profondément et puis des gens.
Je sais pas s'il y a des médecins ou des infirmières dans la salle, vous nous en voudrez pas.
Non, mais c'est vrai que j'ai une petite saillie à leur rencontre parce que. Mais c'est toujours ça, c'est entre ce qu'on ressent soi, c'est comme le fameux monsieur Martineau, qui s'appelle pas vraiment Martineau, mais le fameux monsieur Martineau, et le personnel, sont des gens qui vivent ça tout le temps, c'est-à-dire le personnel de nuit dans les hôpitaux, en soins intensifs, ils voient arriver des gens, les yeux rouges, complètement bouffis, arriver au chevet d'un malade ou d'un mourant ou de quelqu'un qui est à l'article de la mort, et effectivement... On les trouve un peu indifférents, mais c'est normal, ils voient ça toute la journée, nous on vit le truc à fond, et effectivement on a nos petits chapeaux bleus là, et nos petits trucs en papier bleu, ce qui est toujours... Et voilà, donc oui, à un moment j'ai une espèce de petit agacement par rapport à ça, mais ils ont été... moi je trouve qu'il y a une vraie compassion malgré tout, même si elle n'est pas trop affectée, pas trop pesante, par rapport aux gens, ils ont quand même l'habitude, ils trouvent les mots.
Alors, vous n'avez plus qu'à vous précipiter sur le livre et profiter de sa présence pour le faire dédicacer. Voilà, moi je suis content que vous l'ayez rencontré parce que c'est pour moi un homme fort sympathique, fort agréable et que j'aime bien.
Merci Jean-Pierre, merci à toi. Et je remercie Jean-Pierre Bertrand évidemment. Je lui dirais que c'est réciproque ce qu'il vient de te dire. C'est pas de la flagornerie ni des politesses, mais vraiment ça me touche énormément. Je suis très heureux. J'ai passé une très belle journée aussi grâce à toi, parce que j'ai pu aller...
J'ai fait un peu de télévision.
Oui. J'ai fait un tout petit peu, beaucoup de télévision, et ça a été formidable, parce que j'étais au journal de midi, midi 13h, j'ai été enregistrer une émission qui passera samedi.
Samedi matin. Ah oui, samedi matin. Ne ratez pas, samedi matin, il est l'invité de samedi le matin à 11h, sur France 3.
J'ai été accueilli merveilleusement.
Il n'y en a qu'une, c'est la 3.
J'ai été merveilleusement accueilli, et c'est donc grâce à Jean-Pierre. Donc merci d'avoir été là et merci de m'avoir accueilli.
Eh bien, nous saluons l'arrivée de M. Mola, d'ailleurs. Mon cher Denis, merci de nous accueillir, de nous avoir accueillis. Et je voudrais dire juste un petit mot, et tu vas être d'accord avec moi, pour saluer aussi au passage ton éditrice.
Oui, Anne Carrière.
Qui nous a fait nous rencontrer, d'ailleurs.
Voilà, absolument.
Et donc, qui est une amie formidable, une éditrice formidable. Et à qui on doit l'un et l'autre beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Je voulais la saluer. Elle ne pouvait pas être présente ce soir, ce qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Donc voilà. Je vous remercie tous.
Et puisqu'on en est au merci à Mola.
Et merci Denis.
Merci mille fois à tous. Et merci d'avoir été là.